Alors, je voulais remercier Madame Sandras de nous avoir reçus, de nous recevoir, de recevoir Emmanuel Leroy-Ladurie ce soir dans la bibliothèque des Amis de l'Instruction et d'avoir organisé cette rencontre justement à l'occasion de la parution du dernier livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Donc, Emmanuel Leroy-Ladurie vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Naissance de l'histoire du climat ». Bon, moi, je voudrais juste dire quelques mots pour présenter l'itinéraire d'Emmanuel Leroy-Ladurie, historien du climat, sachant que je serai extrêmement brève et que vous en savez certainement autant que moi pour ce qui est de cet itinéraire. Alors, avec son histoire du climat depuis l'an 1000, hein, qui est paru en 1967 pour la première édition, donc, Emmanuel Leroy-Ladurie, chacun reconnaît, a fondé cette discipline qu'on appelle histoire du climat. Le premier, on le reconnaît également, il a montré la variabilité du climat et deux de ses disciples ont pu dire récemment que Emmanuel Leroy-Ladurie avait introduit le temps dans le climat. Après l'histoire du climat depuis l'an 1000, d'autres livres d'histoire du climat ont suivi, donc, mais l'approche d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui au départ était marqué par l'école des annales, a été modifié. Leroy-Ladurie a changé son approche d'historien du climat dans les livres suivants. Dans l'histoire du climat depuis l'an 1000, si vous vous en souvenez, Leroy-Ladurie insiste sur les lentes fluctuations et décrit un paysage climatique dont il dit qu'il paraissait presque immobile. Mais dès cet ouvrage de 1967, il y avait un chapitre qui s'appelait « Le réchauffement récent ». Alors, il était consacré au recul des glaciers, mais il y avait là véritablement une intuition dont on connaît maintenant la fortune. Dans les ouvrages suivants, l'histoire du climat, selon Emmanuel Leroy-Ladurie, s'intéressera plus clairement, explicitement, aux aléas, aux effets des aléas, des fluctuations météorologiques sur l'homme. Ce sera par exemple l'histoire humaine et comparée du climat, qui est paru en 3 volumes dans les années 2000. En 2004, le premier volume s'intitulait « Canicules et glaciers, 13e et 18e siècle ». En 2006, paraît le second volume « Disette et révolution, 1740-1860 ». Et en 2009, le troisième volume, consacré au réchauffement de 1860 à nos jours. Suivait en 2011 un ouvrage intitulé « Les fluctuations du climat de l'an 1000 à nos jours ». Cette fois, l'histoire du climat, graphique à l'appui, vous allez en voir certains ce soir, est celle des fluctuations décennales. Il y a comme une accélération du temps en fait. Avec la conférence de ce soir, qui portera sur famine et climat du Moyen-Âge à nos jours, Emmanuel Leroy-Ladurie renoue aussi avec l'histoire rurale, dont en réalité il ne s'est jamais véritablement écarté. Leroy-Ladurie rappelle volontiers son origine rurale et normande. C'est par l'histoire rurale, dit-il, qu'il est venu à l'histoire du climat. Son ultra-sensibilité au temps qu'il fait lui vient peut-être de son père, que j'ai envie de citer, donc Jacques Leroy-Ladurie, et j'ai demandé l'autorisation à Emmanuel de citer son père, et oui, il était d'accord. Donc cette citation, en fait, est issue d'un livre dont Stéphane Lemny, qui est à l'origine aussi de cette rencontre avec Madame Sandras, donc Stéphane Lemny a fait un compte-rendu de cet ouvrage d'Emmanuel Leroy-Ladurie qui s'appelle « La civilisation rurale », édité aux éditions Alia l'année dernière. On y trouve donc ce court texte de Jacques Leroy-Ladurie que je vais lire pour finir. « Dans le lointain, on découvre jusqu'à 7 clochers. L'Angélus, en tintant, m'annonce d'où vient le vent et déjà le temps du lendemain. » Cloche douffière, vent d'ouest, messagère de la pluie. Grimbosque, vent du nord, fraîcheur l'été, gel l'hiver. Thury-Harcourt, vent du sud, grand beau temps toute saison. Saint-Laurent du Condel, tiens, le vent passe à l'est. Méfions-nous, orage l'été, neige l'hiver. Là, j'aime beaucoup ce texte et je pense qu'il est, on y sent une écriture et vraiment une sensibilité au temps qu'il fait, dont je pense que Emmanuel Leroy-Ladurie est l'héritier, aussi bien comme écrivain et comme ultra sensible au temps qu'il fait. Mais il est temps de laisser la parole au fils, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui nous parle ce soir d'un tout autre sujet, donc famille et climat. Je vous remercie.
Oui, alors effectivement, mon intérêt pour l'histoire du climat remonte à ma jeunesse agricole. Je ne suis pas fils de paysan, mais fils d'agriculteur. Et pendant mon adolescence, je ne pensais pas tellement me consacrer à l'histoire rurale ou à l'histoire du climat. Je pensais plutôt aux crises économiques, à l'histoire du capitalisme. Mais mon installation à Montpellier, à la suite d'un mariage, a fait que je ne pouvais pas vraiment me livrer à des études sur le capitalisme et je suis revenu à l'histoire rurale à laquelle me prédisposait précisément ma jeunesse. De l'histoire rurale, on passe facilement à l'histoire du climat. On peut dire aussi l'histoire urbaine, puisque l'histoire urbaine est celle souvent des révoltes, des crises de subsistance qui frappent la population urbaine et qui ont une origine climatique. Les gens des villes, du reste autrefois, des petites villes du XVIIIe siècle, avaient une attention au climat qu'ils faisaient. À partir de là, j'ai publié une thèse sur les paysans du Languedoc à partir de 1967 et une thèse secondaire, c'était une institution de l'époque, sur l'histoire du climat qui au début a suscité peut-être un peu d'étonnement et à laquelle on s'est habitué. J'y étais venu d'abord par les dates de vendange. Quand on n'a pas de série thermométrique, les dates de vendange, si elles sont tardives, indiquent que le printemps ou l'été ont été frais. Si elles sont précoces, indiquent que le printemps et l'été ont été plutôt chauds. Donc, avant les séries thermométriques, les dates de vendange en Bourgogne, en Languedoc, où je les ai étudiées, sont un indicateur du climat intéressant. Ma deuxième source était les tree rings, les anneaux des arbres. De façon simpliste, disons que quand l'anneau de l'arbre est épais, ça veut dire que l'arbre a été nourri par une pluviosité convenable dans nos régions tempérées. Quand l'anneau est mince, ça veut dire qu'il a pu être victime de la sécheresse. J'ai une amie qui a été en Patagonie et qui a pu prélever des échantillons de baguettes allant du centre à la périphérie de l'arbre. Et là, évidemment, en Patagonie, c'est le froid ou le moins froid qui dicte l'épaisseur de l'anneau si l'année n'a pas été trop glaciale et sa minceur si elle a été effectivement très froide. Donc, moi-même, j'ai essayé de faire des études sur les anneaux des arbres. J'avais acheté une espèce de chignole, mais je n'ai réussi qu'à me blesser la main. Et donc, je me suis borné à lire les articles parus aux États-Unis et en France à ce sujet. Donc, vous voyez les dates de vendange, les anneaux des arbres, les événements climatiques aussi. Très souvent, un curé, autrefois, disposant de registres paroissiaux, indiquait à propos d'un baptême, tiens, ce mois-ci, ces 15 jours-ci, il a fait extrêmement froid, ou au contraire, une forte chaleur d'été. Donc, ces indications dans les archives permettent de réussir des réflexions sur les changements du climat. Et l'un de mes amis a fondé toute sa thèse sur la région, sur la Lorraine, à propos de documents de ce genre. La quatrième source, c'est tout simplement les séries thermométriques, barométriques, pluviométriques. Les séries thermométriques en particulier sont intéressantes et pendant longtemps, la série la plus ancienne a été la série anglaise de Gordon Manley, mois par mois, année par année, de 1659 à nos jours. Mais récemment, M. Daniel Rousseau, on ne le sait pas assez, a constitué une série française et désormais, il ne faut pas trop le dire, nous battons les Anglais d'un an. Notre série commence en 1658. Il ne faudrait pas trop s'en vanter parce que, évidemment, les Anglais ont le poil un peu susceptible et ils pourraient se fâcher. Mais enfin, on peut dire que la série anglaise a été pendant longtemps la plus ancienne du monde et maintenant, c'est la série française. Donc, les vendanges, les arbres, les séries événementielles et, bien sûr, les vieilles séries thermométriques, dont la plus ancienne maintenant est la série française. À partir de là, donc, j'ai soutenu en 1967 une thèse secondaire sur l'histoire du climat qui est devenue mon histoire du climat depuis l'an 1000. J'ai fait de nombreuses excursions sur les glaciers alpins en compagnie de mon épouse qui avait une tradition montagnarde mais pas très élevée. C'était pas les sommets, c'était les langues des glaciers. J'ai donc publié ce premier ouvrage qui a été bien reçu, puis un deuxième qui s'appelait « Climat, médecin, épidémie » où j'étudiais les archives médicales où il y a de nombreuses séries thermométriques à l'Académie de médecine entre 1700, disons, fin de Louis XV, Louis XVI et début de la Révolution. La Révolution, évidemment, a fichu en l'air ce projet, mais enfin, on a tout de même des séries intéressantes. Par la suite, j'ai eu des disciples, surtout en Suisse allemande, et qui du reste ne sont plus des disciples, c'est plutôt moi qui suis leur disciple, Christian Pfister, qui est maintenant le grand spécialiste d'histoire du climat, qui viendra du reste au Collège de France passer une ou deux séances, et d'autres chercheurs de Suisse alémanique, puisque là-bas ils ont à la fois les glaciers, les vignobles, enfin ils ont toutes sortes de choses, mais c'est tout de même un petit pays, alors qu'en France on a déjà un espace beaucoup plus considérable. Actuellement, il y a peu d'historiens du climat, mais malgré tout, il y a moi-même et mes amis et élèves, Madame Bazac qui s'y est intéressée, Monsieur Emmanuel Garnier en France, et puis des jeunes comme Metzger qui est en train d'apprendre le néerlandais parce que les principales publications sont en langue néerlandaise que personne ne lit. Donc il faut, si vous voulez faire l'histoire du climat, commencez par apprendre le néerlandais. Enfin, c'est pas absolument obligatoire. Il y a donc l'Irlande, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie maintenant, qui fournit des chercheurs comme Borizzi, ont fait de remarquables monographies de petites villes du Séneglia, de petites villes du sud de l'Italie, avec des séries de températures. Enfin, si les Anglais n'ont plus tout à fait cette tradition historique du climat qui fut la leur, il y a des grandes personnalités du GIEC, vous connaissez cet organisme international, comme Phil Jones et d'autres aux États-Unis qui maintiennent vivante une autre tradition. À partir de là, l'histoire du climat peut s'intéresser au long terme, au moyen terme, au court terme. Le long terme dans l'histoire géologique, ce sont les millions ou les dizaines de milliers d'années du Quaternaire et autres. Mais pour un historien, le long terme, ce sont les siècles. Et par conséquent, comment peut-on représenter le long terme? Donc, prenons par exemple l'histoire climatique de la France ou de l'Europe occidentale. On le connaît grâce au glacier d'Aletsch. De 1500 à 1000 avant Jésus-Christ, on a une série relativement tiède, ce qui veut dire du reste que c'est simplement peut-être quelques dixièmes de degré de plus que les températures actuelles, peut-être un demi-degré. De 800, disons, à 200 avant Jésus-Christ, on a une série plus fraîche, comparable à ce qu'on a connu pendant le petit âge glaciaire au XVIIe siècle. De 200 ou 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 200, 250, 300 de notre ère, si vous voulez, c'est l'époque romaine qui, apparemment, a bénéficié d'un climat un peu plus tiède, sans qu'on puisse vraiment affirmer que ça ait stimulé l'économie, mais c'est possible. L'époque qu'on pourrait appeler mérovingienne, ça n'a pas grand-chose à voir, bien sûr, de 300 à 800 après le Christ, est un peu plus fraîche. Les glaciers sont donc plus développés, les glaciers alpins, qui sont notre mesure. Et de 800, l'époque de Charlemagne, disons, à 1250, 1275 après Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le petit optimum médiéval. Il semble bien, d'après le glacier d'Aletsch toujours et d'après d'autres sources, qu'il y a eu un climat un peu plus doux, comparable à celui que nous avons connu au XXe siècle, ce qui n'empêchait pas des hivers très froids, enfin des caprices de climat assez importants. À partir de, disons, 1300, je trouve que la date n'est pas mauvaise, jusqu'à 1860, nous entrons dans ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Ce terme est évidemment excessif. Ça veut simplement dire qu'on a peut-être un demi-degré de moins que dans les moyennes, que ce n'est le cas aujourd'hui. C'est donc assez peu de choses, mais malgré tout, on a des fréquences plus grandes d'hiver froid. Comme il y en a, toujours, comme vous avez pu le constater, d'hiver froid, d'été frais, etc. C'est donc ce petit âge glaciaire qui lui-même se décompose, disons, faisons-le par le biais des siècles. À partir de 1300, le 14e siècle, le 15e ont un climat effectivement un peu frais, de petit âge glaciaire. Puis au 16e siècle, on voit bien que le glacier de Grindelwald en Suisse a été un peu plus réduit à cause d'années plus douces, donc. Et puis à partir de 1550, 60, 70, sous l'influence d'années plus fraîches, le glacier de Grindelwald devient plus gros et s'allonge. Et au XVIIe siècle, avec des températures donc un peu plus fraîches que maintenant, il a des dimensions importantes. Et au XVIIIe, vous voyez qu'il est un peu plus petit, je ne sais pas si c'est assez clair sur le graphique. C'est donc qu'il y a un léger réchauffement du XVIIIe siècle qui a pu favoriser l'économie. Néanmoins, on reste dans les conditions d'un glacier de Grindelwald très important. La première moitié du XIXe siècle revient à un climat un peu plus frais. Puis, à partir de 1855-1860, nous avons un premier stade du réchauffement, de ce qu'on pourrait appeler le réchauffement récent, qui est peut-être un phénomène purement naturel, à moins que le développement du CO2, de l'industrie, ait déjà poussé dans cette direction, ce qui n'est pas du tout certain. Depuis cette date, ce glacier, en plusieurs épisodes, a reculé et continue. Le glacier d'en bas de Grindelwald, comme tous les glaciers alpins, et pratiquement tous les glaciers du monde, sauf un moment en Nouvelle-Zélande et puis une autre région, les glaciers alpins reculent. C'est du reste une véritable catastrophe esthétique. En contraste avec le blanc des glaces et des neiges, on a des roches noires qui apparaissent. Alors la mer de glace, c'est à peu près le même schéma. Simplement, le petit réchauffement du XVIIIe siècle est moins évident. Mais enfin, le petit âge glaciaire est bien visible avec une mer de glace plus grosse qui descend. Ceux qui connaissent Chamonix, on pourrait imaginer qu'à un certain moment, la mer de glace était devenue tellement grosse qu'elle aurait barré la vallée de l'Arve. Mais ça ne s'est pas produit, elle est restée dans des limites quand même relativement raisonnables. Et la mer de glace, elle aussi, au XVIIIe siècle, on ne voit pas qu'il y ait ce petit réchauffement, donc qui est peut-être problématique, qu'on voyait sur le glacier de Grindelwald. Et puis, à partir de 1860, elle connaît ce recul un peu catastrophique, progressivement, que nous connaissons aujourd'hui. Alors ça, c'est donc, on peut dire, ce qu'on pourrait appeler la longue durée. Dans les fluctuations à moyen terme, celles qui durent une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on peut prendre l'exemple de la fin du XVIIe siècle, de 1676 ou 77 à 1686 ou 87, on a donc une série d'années relativement tièdes. Puis à partir de 1687 jusqu'en 1700 à peu près, on a une série d'années froides, d'hiver froid, d'été souvent frais et pourri, l'expression est correcte. Et ça ne veut pas dire que tout va mal, hein. Mais enfin, il est certain qu'on a au moins deux grandes famines qui sont dues à ces fraîcheurs, une en France en 1693-94, qui a réduit la récolte par des fraîcheurs et des gelées excessives, et qui a causé donc une réduction forte de la récolte. Et le chiffre assez effarant que les démographes de la Chivert ont bien étudié, d'1 300 000 morts supplémentaires dans une France, disons dans un hexagone peuplé d'une vingtaine de millions de Français. Et on a une autre très grande famine vers 1695-96 en Scandinavie et en Écosse. C'est la dernière grande famine écossaise qui procède également de ces années, qui a été donc assez pénible pour les habitants de ces régions septentrionales. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui davantage, c'est du court terme, c'est-à-dire les années difficiles, les années météo difficiles, productrices de famine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr, puisque nous avons facilement du ravitaillement, et puis nous avons nous-mêmes une très grosse production de céréales. Mais à l'époque où le pain était la principale nourriture, la nourriture de base des populations, même si par ailleurs il y avait des légumes, de la viande parfois et autres, à cette époque, les crises du pain étaient donc importantes. C'était ce qu'on appelait la crise de subsistance, la famine au Moyen-Âge, ou la disette simplement, dans des époques plus tardives et moins difficiles. Comment pouvait être produite une grande famine, précisément comme celle de 1693 dont je viens de parler? Il y a deux facteurs. Il y a la météo, un hiver très froid ou un été pourri qui fait du tort au blé, et puis il y a la guerre. C'est-à-dire soit comme au temps de Louis XIV parce qu'on prélève des impôts très lourds, soit comme au temps des guerres de Cent Ans parce que tout simplement les soudards sont partout, les soudards anglais, les soudards bourguignons, les soudards français. Donc les gens ont une vie très dure et ce sont donc les famines des guerres de Cent Ans qui sont une combinaison de mauvais climat et d'événements guerriers très pénibles pour les populations. Alors, la famine attaque les trois paramètres principaux de la démographie. D'une part, bien évidemment, la mortalité. Je vous ai cité des chiffres un peu effrayants, 1 300 000 morts en 1693, chiffre que je n'ai peut-être pas cité, 630 000 morts supplémentaires pour le grand hiver de 1709. Non pas que ces 600 000 personnes soient mortes deux fois, rassurez-vous, il y a eu un certain nombre de gens qui sont morts deux fois. Mais surtout, les céréales ont été détruites, enfin les pousses vertes, vous avez vu souvent pousser du blé, ont été détruites par le gel, la récolte a été très diminuée, et il y a eu un grand nombre de victimes de la famine. Mais il faut préciser, on meurt de faim, mais c'est plutôt exceptionnel. Ce qui se passe, c'est que la sous-alimentation provoque un affaiblissement des corps et des situations maladives, qui sont le typhus, les fièvres, la dysenterie. Typhus, fièvre, dysenterie, c'est donc une forte poussée de mortalité. La deuxième attaque contre les paramètres démographiques, c'est le mariage. La plupart des enfants naissaient pendant le mariage. Le pourcentage des naissances hors mariage était peut-être de 3, 4, 5%, donc c'était assez différent de ce qui se passera plus tard. Et les mariages donc étaient renvoyés à l'année suivante ou aux deux années suivantes, puisque les jeunes, les moins jeunes préféraient attendre un peu plus tard. Enfin, le troisième paramètre, ça c'est la nuptialité, le troisième paramètre, c'est la natalité. Soit que les hommes se décident par ce qu'on appelait le retrait sexuel, le coitus interruptus, quelque peu répandu déjà en France au XVIIIe siècle, à limiter les naissances, mais surtout c'est le corps des femmes qui était atteint par la famine, par la sous-alimentation, qui durait un certain nombre de mois ou deux saisons, aménorrhée, pas de règles, pas de fécondité, et donc une diminution des naissances qui était due à ce phénomène. Ça a été très étudié en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. On appelait ça la Kriegsaménorrhée, l'aménorrhée de guerre. Et l'Allemagne était soumise au blocus naval anglais, peut-être français. Et alors, la Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands étaient assez bien nourris, puisqu'ils prélevaient sur nos disponibilités en ravitaillement, bien en Pologne et ailleurs, mais c'est surtout après la guerre qu'ils ont été assez malheureux. On appelle ça l'aménorrhée d'après-guerre, Nachkriegsaménorrhée, qui a duré peut-être un an ou deux, puis après. Alors on a par exemple un texte étonnant d'un curé qui écrit à l'intendant au moment de la famine de 1740, ce qui est plutôt une disette qu'une famine. Monseigneur, je suis assez embêté de vous annoncer les choses suivantes. Mes paroissiens du sexe masculin se soulagent avec leur bétail et leurs femmes leur font de doux reproches. Ça, c'est le style du XVIIIe siècle, de ce comportement. Mais ils disent, je ne peux quand même pas te faire un enfant en ce moment, dans les conditions de la disette. C'est un texte assez extraordinaire d'un curé qui reflète peut-être les obsessions sexuelles de cet ecclésiastique, mais qui tout de même semble avoir un fond de réalité. Alors, à partir de là, quelles sont les ressources dont disposent les gens? Il y a d'abord, on pourrait dire, les trois R, la religion. Donc on se tourne vers un saint, un saint, qui est spécialisé dans les questions de céréales, de disette, etc. On le supplie de faire revenir soit la pluie, soit telle autre chose. Alors s'il ne fait pas son travail, il est battu, la statue du saint est battue, est mutilée, et brûlé, et noyé, enfin, puis finalement, on se résout à prendre un autre saint qui sera peut-être plus efficace, et effectivement, au bout de quelques temps, la récolte revient. Alors ça, c'est la religion. avec des processions dans l'église, en dehors de l'église, etc. Ensuite, ce sont les émeutes de subsistance qui sont une forme assez remarquable de la contestation depuis le Moyen-Âge, qu'on retrouve dans pas mal de pays, qui sont souvent dirigés par des femmes, puisque ce sont les femmes qui vont chercher dans les villes, qui vont chercher le pain ou le blé au marché. Ce sont des émeutes, pas forcément cruelles ou destructrices. Enfin, en Angleterre, c'est assez discipliné et qui cherchent à obtenir la baisse du prix du blé. Donc, religion, révolte, et puis ravitaillement, c'est-à-dire que les villes, parce qu'au départ c'était les villes qui s'occupaient de ça, s'efforcent d'acheter du blé par la rivière ou le bord de la mer lorsqu'elles y sont. Et puis ensuite c'est l'État monarchique, qui fait une politique de ravitaillement et qui achète du blé en Baltique ou dans la région de Bordeaux quand la famine est dans la région parisienne et qui donc s'efforce de remédier tant bien que mal. Donc voilà les façons d'opérer. Et nous pouvons suivre les famines au fond siècle par siècle, en commençant effectivement à partir de 1300 au 14e siècle. Alors la grande famine européenne, c'est celle de 1314-1315, qui est due à des excès de pluie, tout simplement. La pluie est un facteur tout à fait essentiel quand elle est excessive. Du manque de subsistance, je me souviens, avec mes parents, on observait toujours en été, bon, on n'était pas menacé par la famine, enfin, même pendant l'occupation, puisqu'on était agriculteurs, mais enfin. Et en 1314-1315, vous avez une grande famine européenne, en France et en Angleterre, qui a dû quand même faire périr peut-être 6 à 7% de la population française. Ça n'est pas la peste noire qui fait du 30%, 40%, enfin, mais c'est tout de même un accident assez grave. Et vient la peste noire, la peste de 1348, qui n'a pas grand-chose à voir avec le climat, et sur laquelle je passe rapidement. Et nous avons ensuite, il y a toujours des assez fréquentes crises de subsistance, la famine de 1374-75, qui elle aussi est liée à des pluies excessives. C'est-à-dire que, enfin, je dirais qu'il y a deux grandes causalités des famines. Il y a, sous nos climats, la moitié nord de la France, l'échaudage, la sécheresse, le coup de soleil, mais qui n'est pas très très fréquent. La grande cause, c'est plutôt l'excès de pluie au printemps, à l'été, à l'automne, et l'hiver, soit l'hiver glacial, qui tue les semences, soit l'hiver, là aussi, trop humide. Oui. Donc vous avez soit du froid et de l'humidité, soit du chaud, de la sécheresse, ce qui est évidemment beaucoup plus vrai en Espagne, en Maghreb, mais en France, c'est nettement plus rare. Donc, j'ai parlé du XIVe siècle et nous arrivons à l'heure, j'ai parlé de 1374-75, une disette également importante, mais n'oubliez pas que la France a déjà perdu peut-être le tiers de sa population. La France, l'Hexagone, qui était virtuelle. Comme cette population est plus faible, les horreurs de la famine sont peut-être moins grandes, enfin on peut en discuter. Nous arrivons alors au XVe siècle et la guerre de Cent Ans, qui se continue dans la première moitié du XVe siècle, alliée à de mauvaises conditions climatiques parfois, est quand même une cause de famine terrible, parce que, je l'ai dit, les soudards, les Anglais, les Bourguignons, les Français, les gens sont assez malheureux de ce côté-là. On a donc, ce qui est assez remarquable, en 1420, une famine d'échaudage, ce qui est assez rare, de coups de chaleur, de sécheresse, la réduction de la récolte par suite d'un excès de sécheresse et de chaleur, parvient à créer des conditions très difficiles. Et à Paris, les petits-enfants, assis sur des fumiers, à Noël alors, après, à Noël, puisque le fumier dégage une chaleur qui permet aux gens de se réchauffer un peu, crient « je meurs de faim, je meurs de faim ». Mais les passants, évidemment, sont loin de pouvoir ou de vouloir toujours les aider. Les grandes famines de la guerre de Cent Ans, étudiées par M. Guibois, sont aussi celles de 1432, et 1439, qui elles sont tout simplement les causes classiques, soit des grands hivers, soit des excès de pluie. Et c'est l'époque où la France, à cause des guerres de Cent Ans, est tout de même très frappée par les catastrophes. Les famines jouent un rôle, mais c'est surtout la guerre et puis d'autres phénomènes. Et c'est dans ces conditions que la population française, qui était d'une vingtaine de millions de personnes dans le cadre virtuel de l'Hexagone et qui sera toujours plus ou moins fixé à ce chiffre de 20 millions jusque sous Louis XIV, jusque vers 1714-15, que la population française subit un choc très important et doit tomber à peut-être 9 à 10 millions de personnes dans le cadre virtuel de l'Hexagone. La population est diminuée de moitié, ce qui permettra du reste le rebondissement de la deuxième moitié du XVe siècle à laquelle nous arrivons avec le règne de Louis XI. Vous savez que Louis XI a été réhabilité par un historien américain qui s'appelle Kendall, qui a fait un bon livre sur Louis XI. Mais malgré la Renaissance française, après les guerres de Cent Ans, on a, en 1481, une famine due aux conditions du froid et de l'humide. Et ce qui est remarquable, c'est que Louis XI, pour la première fois, ce que n'avait pas fait son prédécesseur Louis X le Hutin, je crois, en 1315, qui n'avait rien fait du tout, sinon acheter du blé à des paysans, puis le vendre à ses troupes en Flandre. Là, au contraire, Louis XI fait une politique qu'on appellera plus tard mercantiliste, qui est une politique de dirigisme, où il interdit les exportations de blé. Bon, je ne dis pas que c'était très efficace. Il fait des importations et il s'efforce de lutter contre le stockage, le marché noir, etc. Donc là, il y a une intervention de la monarchie qui est intéressante. Au XVIe siècle, nous avons en général un climat un peu plus doux. Vous savez, c'est le climat actuel, mais malgré tout, quelques vagues de douceur ou de chaleur. À une époque où les guerres ne sont pas bien terribles, entre 1500 et 1560, mais malgré tout, une grosse poussée dépressionnaire en 1527-1529 et des famines assez importantes à cette époque. Avec malgré tout de belles années et une famine d'échaudage en 1556 qui fait pas mal de morts en Angleterre également. Viennent alors les guerres de religion qui vont, comme vous le savez, de 1560 à 1595 à peu près, ce qui fait quoi, 35 ans. On a quand même, je crois, 5 famines parce que le lien avec la guerre est très fort. 1562, 1565, 1573, 1586, 1595. Et dans tous les cas, il y a peut-être quelques processus d'échaudage, mais c'est avant tout de la pluie, des hivers froids. C'est vraiment le petit âge glaciaire qui produit cela. Alors, 1562, bon, 1565, c'est assez intéressant, car en 1566, c'est le soulèvement des Pays-Bas. Donc il y a la disette, première moitié de 1566, le soulèvement protestant et autres des Pays-Bas, deuxième moitié, et l'on peut se demander si les mauvaises conditions économiques n'ont pas incité à cette révolte. De même, 1573, bon, 1586, vous avez donc là aussi une famine due au froid ou à la pluie. 1587, les gens, la famine mort fortement, et je me demande toujours si les grandes processions de la Ligue catholique en 1588 n'ont pas quand même un lien, en dehors d'un certain fanatisme religieux, avec les difficultés qu'ont ressenti les gens à cette époque. Enfin, 1595, l'Angleterre, il y a un écho dans la culture, c'est Shakespeare. C'est Shakespeare qui, je crois, avec le songe de Nuit d'été et avec Coriolan, s'intéresse aux crises de subsistance qui existent aussi en Angleterre, quoiqu'à moindre degré qu'en France. Alors que Molière, Racine et Corneille ne se sont pas tellement intéressés à ces problèmes, Shakespeare, qui avait quand même une sensibilité populaire, les a tout de même assez bien sortis. C'est peut-être une supériorité anglaise, enfin, on pourrait en discuter longtemps. Le XVIIe siècle va amener, après une période assez favorable sur Henri IV et autres, à partir de, disons, de 1620 à 1662-63, soit une période qui doit faire une quarantaine d'années, un peu plus, ou 45 ans, il y a tout de même des famines assez importantes. Celle de 1622, qui est une famine anglaise. Or, les Anglais ont toujours dit qu'après 1622, il n'y aura plus de famine en Angleterre. Il y a un peu l'orgueil national, puisqu'en 1649, il y a quand même une espèce de famine. Mais il y a surtout alors des crises de subsistance avec des food riots, des émeutes de subsistance. En tout cas, selon les historiens anglais, c'est la dernière grande famine anglaise, toujours pareil, hiver, pluie, etc. C'est aussi le moment où on part, on découvre les pères pèlerins en Amérique. Bon. Alors, 1627-1629, vous avez une série de famines, pluie et froid, en France. Et là, il y a un texte remarquable d'un curé. Il dit dans ma paroisse du côté de Grosbourg, il y a eu un grand nombre de morts, et il dit il y a eu 110 personnes qui sont mortes de faim. Donc quand on dit qu'on ne mourrait pas de faim sous l'Ancien Régime, c'est inexact, on pouvait mourir de faim. Mais évidemment, la plus grande partie des morts était causée par ces maladies dont je parlais, le typhus, la dysenterie, et les fièvres qui proliféraient sur des corps de personnes sous-alimentées. Alors on a d'assez jolies périodes vers 1635-1639, et puis nous avons ce qu'on pourrait appeler la période de la Fronde. 1643, c'est pas encore la Fronde, mais toujours ces années froides et humides, une crise de subsistance, et puis surtout 1648, 1649, 1650, d'une part la Révolution anglaise, qui là aussi, à mon sens, quoi qu'on dise les Anglais, a quand même un peu un certain lien avec les subsistances, et puis la Fronde française, qui n'a rien à voir avec les subsistances, mais qui broche sur un terrain subsistentiel qui est miné en 1649, et l'Angleterre elle-même passe une année difficile, et 1649, c'est l'année où est décapité le roi Charles, et certainement avec une année difficile à divers points de vue. Et nous arrivons alors à la famine de 1661, en période de paix. Peut-être que Louis XIV a des petites guerres, en période de paix. C'est pas de très bon goût, c'est l'époque où des grandes festivités du carrousel, en pleine crise de subsistance à Paris. Je me demande comment les Parisiens l'ont pris quand même. Et vous savez que le carrousel est resté dans la région, non loin du Louvre. Il y a un lieu dit qui... Alors, si nous regardons le total, de 1620, une quarantaine d'années, à 1662, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 famines. Soit, je ne sais pas, une tous les 8 ans en moyenne. C'est donc quand même une période assez dure. Avec Louis XIV, ça peut étonner, on dit toujours beaucoup de mal à Louis XIV, les choses s'arrangent un peu, et de 1661 à 1690, il a presque une trentaine d'années, tranquille, donc ce roi n'est pas toujours aussi mauvais qu'on le prétend. Mais en revanche, on a les grandes famines dont j'ai déjà parlé, de 1693 et de 1709, avec 1 300 000 morts, puis dans la suivante, 630 000, c'est assez dur. Les choses s'arrangent au XVIIIe siècle, les famines diminuent, si bien qu'il faut attendre 1740 pour avoir une véritable crise de subsistance, mais cette fois-ci le chiffre des morts est beaucoup plus faible, tombe à une centaine de milliers, 100 000 morts environ, comme toujours quelques morts de faim, et puis les épidémies dont j'ai parlé. Il y a une amélioration très nette, il y a davantage d'argent. La productivité agricole a dû augmenter un peu, c'est mieux, mais tout de même, une centaine de milliers d'euros, ça n'est pas négligeable. Et puis alors, on a d'assez jolies périodes, donc le XVIIIe siècle, même si Louis XV a le défaut que l'on sait, c'est même plus agréable que le XVIIe. On libère le commerce du blé, même en 1764, puis on y renonce. Et alors arrive, et je ne parle pas de 1770, 75, des années chaudes, mais qui ne sont pas mauvaises pour les subsistances. Et nous avons le problème de la Révolution française. Alors, la Révolution française, vous vous en doutez, n'a pas été produite par le climat. C'est la bourgeoisie qui monte, la noblesse qui descend. Enfin, vous connaissez ce que dit. Enfin, pour être plus précis, la bourgeoisie, les mentalités qui changent. Une noblesse libérale, mais suicidaire quand même, en même temps, qui creuse un peu sur son propre tombeau. C'est dommage, avec des gens souvent généreux. Mais il y a quand même un épisode de subsistance important. C'est-à-dire, en 1787, vous avez des pluies excessives vers le mois d'octobre, qui c'est pas très bon pour les semailles. Première moitié de 1788, un hiver trop doux, dépressionnaire, avec beaucoup de pluie. Un coup d'échaudage en mai-juin 88 et une récolte médiocre. Ce qui montre quand même les progrès qu'a fait la France. Hippolyte Taine disait toujours, le peuple... Au 18e, avant la Révolution, il y a toujours l'eau qui lui monte jusque-là, tout d'un coup l'eau monte, il étouffe. Non, le 18e siècle a fait des progrès très nets. 1788, il n'y a pas de mortalité. Il y a une hausse du prix du blé très forte, il y a sûrement des gens qui sont morts de ce fait, mais il n'y a pas de hausse de la mortalité. Ça, c'est vraiment un gros progrès, assez remarquable, mais énormément d'émeutes de subsistance. Et c'est tout de même l'une des composantes de l'événement Révolution. La Révolution a des origines depuis 30-40 ans. Mais il y a une agitation populaire, urbaine, paysanne aussi, qui est due effectivement à des difficultés de subsistance, puis enfin il y a bien d'autres raisons. Et sous la Révolution, vous avez encore un deuxième épisode, c'est au moment de la fin de Robespierre, en l'été 94. Vous avez là aussi un coup d'échaudage, des intempéries, et le printemps 1795, une crise de subsistance assez importante, qui donc marque la Révolution. Sous Napoléon, vous avez des pluies excessives en 1802, un coup d'échaudage en 1811, tout ça pas très méchant, mais quand même une certaine fréquence qui montre que l'Empire n'a pas été toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors le grand événement, c'est l'explosion du volcan de Tambora en Indonésie en 1815, qui couvre la planète d'un fin voile de poussière, et donc qui diminue très légèrement, c'est pas exagéré, les radiations solaires, et qui crée donc des crises de subsistance à l'échelle de l'hémisphère nord, probablement, ça on le connaît, enfin en Amérique du Nord ils avaient de quoi manger quand même, aux États-Unis, et qui crée donc une petite crise de subsistance en France, mais assez remarquable, avec quelques dizaines de milliers de morts. L'intérêt de cette époque, c'est quand même l'agitation révolutionnaire qui coïncide avec les crises de subsistance, en particulier, bon, la révolution de 1830 n'a rien à voir, bien sûr, avec le climat, c'est la bourgeoisie qui veut retrouver la liberté de la presse, qui veut participer au pouvoir, la bourgeoisie qui a déjà plus ou moins pris le pouvoir, en partie du moins. Vous avez donc, dans l'événementiel, dans le déclenchement, dans la gâchette, vous avez des pluies assez importantes, à partir de 1828, 29, 30, 31, qui font des récoltes médiocres, une hausse du prix du blé, il n'y a pas vraiment de famine, mais quand même une agitation sociale assez importante, et puis la révolte de Lyon, quand même, qu'on oublie un peu, en 1832, qui sont des agitations sociales liées à la hausse des prix. En 1839, encore une crise un peu analogue, mais qui n'a pas de conséquences révolutionnaires. Et alors surtout, ce qui est très important, c'est la crise de 1846, c'est-à-dire un gros coup d'échaudage. Et un été très chaud, une réduction de la récolte et surtout la maladie de la pomme de terre. C'est-à-dire que vous avez, pour les deux principales nourritures du peuple, au fond, c'est-à-dire le pain, c'est traditionnel, mais la pomme de terre sont atteintes. Et cette fois-ci, c'est quand même assez grave. Je ne dis pas qu'on revient à 1709 ou en 1693. On est quand même à 200 000 morts supplémentaires. En 1846-47, avec des grèves, parce que cette fois-ci, c'est la nouvelle sensibilité ouvrière qui apparaît, qui n'existait pas auparavant. Donc, cette agitation est l'une des innombrables causes de la révolution de 1848, c'est-à-dire à un moment, on promène les cadavres à la lueur des flambeaux, vous savez, la nuit, en février 48, et puis tout d'un coup, tout repart, tout explose. Sous le Second Empire, la République, en général, les questions des subsistances sont quand même bien résolues. Mais au XXe siècle, on a des événements, des épisodes assez intéressants. On a en particulier les années 1904, 5, 6, 7, avec des étés chauds et qui produisent la grande crise de surproduction du vin, avec la grande agitation de 1907 en Languedoc. Et j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un regarde s'il n'y a pas eu une mortalité quand même au Languedoc, parce que les prix du vin se sont effondrés à la suite d'excellentes vendanges dues à ces étés chauds. Et à bien des égards, c'est une sorte d'émeute d'ancien régime. Ben, est-ce qu'il n'y a pas une petite mortalité en Languedoc en 1907 ? Ce serait intéressant d'étudier. Alors, il y a l'Allemagne de 1917. Il y a vraiment un moment très difficile, c'est-à-dire que l'Allemagne ayant le blocus anglais, ce n'est pas une famine, mais enfin les gens souffrent quand même beaucoup. L'hiver, il y a un coup de froid de 1917, important, que les gens ont fortement senti durer dans les tranchées. Une récolte diminuée et quand même beaucoup d'agitation, des grèves, et qui sont l'une des composantes de ce qui va devenir la révolution allemande de 1918. Passons sur l'entre-deux-guerres. Bon, naturellement, les deux guerres ont été synonymes de restrictions. Quoiqu'il y a une curieuse année, 1943, où, bon, il y a ce que nous savons, la Shoah, etc., mais au point de vue des subsistances, il y a eu d'assez bonnes récoltes dont les Allemands ont pris une bonne partie. Ben, enfin, ouais. Mais ce qui est remarquable, c'est 1947. Ce n'est pas une crise de subsistance. Mais il n'y a aucun doute qu'il y a eu une canicule en 1947, très forte, et qui a donné une récolte médiocre. Donc la France s'est tournée vers les États-Unis pour acheter du corn, C-O-R-N. Je ne sais pas si vous savez que corn en Angleterre veut dire blé, et aux États-Unis veut dire maïs. On a vu arriver des tonnes de maïs. Et moi, il y a peut-être des gens âgés ici qui se souviennent du pain jaune de 1947. On a fait du pain de maïs. C'est un bureaucrate absurde qui ne savait pas que corn veut dire maïs aux États-Unis. C'était quand même l'année 47 avec les grèves, certes, bon, orientées par le communisme international, je n'insiste pas, mais qui sont liées quand même à une très forte inflation papier dans laquelle il y a un petit élément tout de même agricole. Alors, la dernière grande, non pas crise de subsistance, mais le dernier épisode très passionnant, c'est 1956 en Espagne. Beaucoup de vous se souviennent, et plus jeune, pour ne pas être tellement vieux pour ça, du grand hiver de 1956, de février 1956. Il y a eu des problèmes un peu partout. En France, les oliviers ont disparu, ils reviennent péniblement. Mais en Espagne, ça a été tout de même très dur. L'Espagne de Franco avait tout de même des problèmes difficiles. Ça crée de l'inflation, des grèves. Et c'est le moment où Franco change son équipe devant des l'agitation sociale. On ne mourrait pas de faim, enfin de problèmes de subsistance. Franco renvoie sa vieille équipe franquiste et prend des hommes nouveaux, les gens de l'Opus Dei, formés aussi à Harvard, ce qu'on oublie. Il y a de deux côtés, Opus Dei et Harvard, où Lastre, López Rodó, etc. Et c'est le nouveau cours franquiste qui démarre grâce à donc, cet épisode, enfin il y a un tas d'autres causalités, de 1956. Ce sera donc peut-être la dernière épisode que je veux raconter à ce sujet. Vous voyez donc cette présence des problèmes de subsistance. Alors, vous avez ici l'une des sources essentielles de l'histoire climatique. Ce sont les dates de vendange. La courbe d'en bas, c'est la courbe des dates de vendange à Châteauneuf-du-Pape, donc vous voyez le vignoble, enfin les vins du Vaucluse. Et donc ça, c'est le bas, et la courbe du haut, ce sont les températures d'avril à septembre. Et vous voyez comme la date des vendanges est quand même liée aux températures d'avril à septembre, et c'est donc un bon indicateur climatique, tout en sachant qu'il y a d'autres facteurs, puisque le vigneron peut décider de vendanger tard pour faire de meilleurs vins, etc. Donc c'est vraiment une source tout à fait importante, et Madame Valérie Daud, par exemple, qui est une excellente climatologue, elle a beaucoup utilisé les dates de vendange. Oui, alors ça, ce sont les températures françaises de 1900 à 2010, à peu près à 2005. Alors, vous voyez qu'on part dans les années 1900-1910, du reste qui sont des années un peu fraîches en fait, il y avait dû y avoir des années un peu plus tièdes avant, une température moyenne de 11,4, je crois. La température moyenne de la France en 1901-1910, si je ne me trompe pas, est donc de 11,4. Alors en 1911-1920, on passe, si je ne me trompe pas, à 11,7. Est-ce que ce réchauffement est dû aux raisons industrielles, CO2 que nous savons? Est-ce que c'est tout simplement un phénomène naturel? C'est difficile à dire. Alors, à la suite d'une progression qui se poursuit, on arrive à un premier maximum en 1941-50, l'on est à 12 degrés. Donc, ce sont les belles années, si j'ose dire, de la guerre, mais je crois qu'on n'a pas pu trop en profiter, sinon peut-être à partir de 1945-50, parce qu'on avait d'autres soucis. Alors, ensuite, ça plonge un petit peu, on doit retomber au 11,7, je crois, vers les années 60, puis le réchauffement que nous connaissons, qui est très net dans les années 70, je crois, 80, 90, etc. Et l'on arrive à 12, non pas à 13, mais disons la décennie qui n'est pas complète, la décennie 2001-2010 est à 12,9. Alors peut-être c'est un peu exagéré, c'est possible. On part de 11,4 et on arriverait à 12,9, 1,5 degré en un siècle. En fait, c'est plutôt 1,09 ou 1 degré, je crois. On a gagné de 1800 l'espace français, si vous voulez, dans l'espace ouest européen. On a gagné de 1850-60 à 2010. On a gagné 0,9 ou 1 degré. Ça n'est pas énorme, mais ça annonce peut-être des chaleurs plus considérables, comme vous le savez. Alors, c'est la fameuse courbe du GIEC. La courbe mondiale, et vous voyez qu'à partir de 1910, effectivement, il y a le réchauffement, c'est une courbe qui traîne partout. Alors les glaciers alpins...
1800-1820 en haut et 1962.
Vers 1962, mettons. Et depuis, le recul a beaucoup continué. Mais dès le 18e ou 19e siècle, le petit âge glaciaire, à 1960, il y avait déjà un recul marqué. Alors le glacier de Grindelwald, le glacier d'en bas... De 1770, mais toujours pareil, comme nous y sommes passés tous les deux, nous étions plus sportifs que nous sommes maintenant. Donc en 1962, donc je crois qu'on voit bien la disparition du glacier. Ensuite, alors le glacier de la Brenva, qui est le versant du Mont Blanc du côté italien, 1767 et toujours pareil, 1962, vous voyez le recul considérable. Ensuite, Le glacier d'Argentière, c'est une photo que Madeleine a fait qui a fait le tour du monde. Vous voyez l'église, les maisons, qui, maintenant on ne pourrait plus faire cette photo du reste. Vous avez donc le glacier d'Argentière qui descend de 1850, qui descend quand même, c'est encore le petit âge glaciaire, qui descend jusqu'à la, presque jusqu'à l'église, et puis quand nous y sommes passés, vous ne voyez plus grand chose. Alors le glacier du Rhône, avec cette espèce de coquille extraordinaire qu'on appelait le Pecten, le coquille, c'est 1720, toujours pareil, le petit âge glaciaire, mais aujourd'hui le Valois Pecten a complètement disparu. Alors, il va de soi que si on faisait les mêmes photos, le recul est beaucoup plus considérable. Le recul des glaciers, c'est une chose ancienne, qui commence dès 1860, qui s'arrête de 1880 à 1930, et puis qui le fait 1930, et continue. Bien sûr, il y a des petites réavancées, mais le désépaississement des glaciers alpins est continu. Voilà, et je vous remercie. Et je remercie ma photographe. Oui.
Comment c'est mesuré, si ça a avancé et reculé dans le temps,
comment on connaît tout cela? Alors, on a beaucoup de textes qui permettent de préciser la position du glacier. À partir du 18e siècle, il y a les touristes anglais et européens en général. Mais les premiers textes, on a même des textes latins, c'est intéressant. On a énormément de textes et actuellement, vous avez vu, les glaciologues suisses sont capables de faire des graphiques presque annuels du glacier depuis l'instauration du petit âge glaciaire de la deuxième période, depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant. Et en France, nous avons un très bon glaciologue, Christian Vincent aussi, qui travaille avec les Suisses. Alors, les Suisses, dans le temps, publiaient en allemand, que j'arrivais à lire, mais maintenant, comme tout le monde, ils publient en anglais. C'est un peu triste, comme ça. Excusez-moi.
Quand est-ce que la population française a réaugmenté?
Ah oui, je vais vous répondre. Quelle était la population tant des Gaulois, j'en sais rien. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'on a fait un plein aux premières moitiés du XIVe siècle, avant la peste noire. On est à une vingtaine de millions dans le cadre de l'Hexagone. Oui. Mais attention, le royaume était plus petit, peut-être c'était 16 millions, je ne sais pas. Oui. On était à 19 ou 20 millions. Puis, peste noire et peste successive, plus les guerres, plus un peu les famines, nous amène à 9 ou 10 millions vers 1450, toujours dans le cadre de l'Hexagone. Et puis là, ça repart pas très vite, mais vers 1550, on est remonté au fameux chiffre canonique de 20 millions, qui semble avoir été un chiffre, comment dirais-je, modèle. Et on reste aux 20 millions. Alors, sous les guerres de 100 ans, on a perdu quand même 10 millions de personnes dans le cadre de l'Hexagone. Sous les guerres de religion, c'est beaucoup moins dur. On doit perdre de temps en temps 1 million, mais quand même avec des famines et puis les guerres, on perd 1 million, on le regagne. Et si bien qu'on, comme ça, on oscille vers 19-20 millions. Et ce chiffre de 19 ou 20 millions va rester canonique jusque sous Louis XIV. Et jusqu'à la fin du XIV, en 1714-15, on est toujours à la vingtaine, 19-20 millions. Vous savez, c'est Vauban qui a fait les premiers chiffres. Et puis alors, à partir de 1715, cette espèce de prospérité quand même, qui n'est pas fausse du XVIIIe siècle, on augmente et on doit être à la veille de la Révolution, si mes souvenirs sont bons, on doit être à 28 millions, je crois. Et finalement, on arrive aux 40 millions vers 1860, et là c'est ce fameux chiffre de 40 millions qu'on a tous appris en géographie, les vieux, où la population de la France a 40 millions d'habitants, comme si ces choses-là étaient fixes. Et puis vous savez qu'il y a eu le baby boom et tout, et qu'on est passé maintenant à 60 millions depuis 1945 jusqu'à maintenant. Voilà à peu près les chiffres.
Vous parlez de l'évolution du climat, en Europe surtout. Mais est-ce qu'on sait quelque chose sur l'évolution du climat en Afrique du Nord, au Proche-Orient?
Alors, je pense qu'en Chine, on commence à bien savoir. À l'échelle mondiale, ben, on la connaît bien sûr par les chiffres du GIEC et autres. Je crois quand même que les meilleures séries, c'est l'Angleterre, c'est la France. Aux États-Unis, il y a les anneaux des arbres. La Russie doit y avoir des choses, mais l'Europe occidentale est assez favorisée. Alors le problème des Kourgos, la forêt équatoriale n'a pas d'anneau d'arbres, parce que comme il n'y a pas de saison, le climat est toujours le même.
Alors Monsieur Laurent Ladurie, merci beaucoup pour cette histoire du climat que vous nous avez déclinée avec brio. Merci à votre épouse qui était à la technique. Merci à Anouchka. Oui. Anouchka a rappelé effectivement que cette soirée est également à l'initiative de Stéphane Lemny, qui travaille à la Bibliothèque nationale. Donc, merci à Stéphane. Il me faut également remercier la mairie du 3e arrondissement qui nous a énormément reçus dans le cadre d'une semaine consacrée au développement durable. Donc je pense que vous avez le programme en bas. Donc, c'est très important aussi pour nous d'avoir fait la vie avec la mairie du 3e arrondissement. Et enfin, je termine par des remerciements bénévoles de notre association, en particulier à Michel, qui m'a beaucoup aidé.